France Inter, Nicolas Demorand, le 7-9.
Et avec Léa Salamé, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 deux spécialistes de la chose politique. L'un est professeur des universités à Sciences Po, directeur du think tank libéral Fondapol. L'autre est professeur de sciences politiques à l'université et à Sciences Po Lille. Voilà, j'ai déroulé les CV, vos questions dans 10 minutes au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Dominique Régnier, Rémi Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
On voulait réfléchir avec vous aujourd'hui aux conséquences, aux effets de moyen ou long terme de ces élections européennes. On attendait une abstention désastreuse à ce scrutin qui n'intéresse pas les Français, comme on le répète tous les 5 ans. Alors que diriez-vous, ça s'est pas passé comme ça du tout. Est-ce que ces européennes sont, on commence comme ça, une queue de comète de la présidentielle ou au contraire une étape importante de la profonde recomposition du champ politique français? Qui veut répondre, Rémi Lefebvre, pour commencer?
Allez, c'est parti. Oui, effectivement, je pense que ça confirme à bien des égards ce qui s'est passé en 2017. Hein. Le macronisme aujourd'hui s'est consolidé à un niveau quand même assez élevé pour une force au pouvoir. Il est réinventé, néanmoins, il a changé sa base sociologique. Ça, c'est très impressionnant. C'est-à-dire que il y a une agilité de Macron qui s'est adaptée en fait à un contexte nouveau. Le en même temps est un petit peu derrière nous. Aujourd'hui, il y a une droitisation sociologique du macronisme qui avait été préparée par une droitisation aussi de son offre politique. Et puis le vieux monde continue son déclassement. Hein. On a la droite et le PS à des niveaux à 15% à 2. Jamais on aurait cru des partis de gouvernement à ce niveau-là. Et puis effectivement des surprises, ce qui montre que le système politique est de plus en plus imprévisible avec cette montée des écologistes et puis cet affaissement spectaculaire des Républicains.
Dominique Régnier, la poussière retombée, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez un duopole, La République en marche, le Rassemblement national, et ce sera ça qui structurera la vie politique dans les prochaines années? Ou est-ce que vous voyez, à l'issue de ces européennes, un oligopole à 3 branches, La République en marche, le Rassemblement national, et une gauche éclatée, certes, mais une gauche qui, si on additionne les voix, tient
existe,
à peu près, existe?
Oui, ce sont des schémas tout à fait possibles, sachant que la vie politique française est structurée, on le sait tous, par la présidentielle, que c'est dans très peu de temps. Et donc, on n'a pas la durée pour voir se reconstruire de manière significative des mouvements qui pourraient renaître, que ce soit le PS ou que ce soit les LR. Je crois que c'est pas tout à fait symétrique, en effet, que la position des LR est très inconfortable, très difficile. Leur base, désormais, est presque inexistante, en réalité. Hein, c'est quasiment...
Pour vous, l'espace de la droite... Nicolas, il y a des propos rapportés de Nicolas Sarkozy qui disent la droite est morte. Est-ce que vous diriez cela comme ça? Alors, est-ce qu'elle a été totalement remplacée par Emmanuel Macron, ou est-ce que c'est plus compliqué?
Et par le RN.
Et par le RN, ou c'est plus compliqué?
Non, je pense que ça, on peut le dire aujourd'hui. Ce qui est compliqué dans le système politique français, c'est que les organisations politiques comme les LR, par exemple, même dans cette situation catastrophique, le système étant cartélisé, ont des ressources financières. Il faut que les gens voient bien ça. Hein. Ils ont un local, ils ont des ressources financières jusqu'en 2022. Et donc, en se serrant les coudes, tous ceux qui ont perdu se réunissent dans un bureau et décident de tenir jusqu'en 2022. Donc, et vous pouvez avoir, par des effets de conjoncture, une remontée un peu mécanique, parce qu'il y aurait, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer du côté du macronisme. Mais sur le fond, en termes d'analyse politique, ça me paraît être un bon diagnostic de dire que c'est fini. La gauche est peut-être plus vivante, parce qu'elle a plus de facettes aujourd'hui, qu'il faudrait réunir, ce qui n'est pas simple. Mais elle a un obstacle, je crois, qui est très important. C'est la question qui taraude la société française et européenne. C'est la question de l'immigration, c'est la question du rapport à l'islam, de l'interculturalité, de ces conflits si compliqués que nous avons de plus en plus souvent. Et donc là-dessus, je vois...
Ouais, elle n'est pas claire, vous dites?
Elle n'est pas claire. Et puis surtout, les électeurs sont demandeurs quand même d'une ligne très, très à la fois claire et ferme. Donc je ne sais pas comment la gauche peut dépasser. Ça peut se régler en retournant aux racines de la gauche, hein, qui n'a pas toujours été comme elle l'est aujourd'hui.
J'aimerais qu'on revienne quand même, Rémi Lefebvre, à ce que vous suggériez, à savoir la plasticité, d'une certaine manière, du macronisme. Porté en 2017 par les électeurs de gauche, soutenu aux européennes par les électeurs de droite, disant désormais être une force écologique. qu'est-ce que c'est que ce parti? C'est un parti attrape-tout? C'est un mouvement? C'est encore autre chose?
On pourrait ajouter En Marche qui joue au niveau européen la carte plutôt de l'alliance avec les sociodémocrates et les écologistes. Donc qui a une capacité, une agilité tactique qui est impressionnante. Bah, je pense en fait que le macronisme, c'est un pragmatisme qui joue beaucoup des contradictions du système politique, qui les fait sans cesse rejouer. Et à mon avis, on va le voir encore plus dans les mois qui viennent avec les élections municipales.
Expliquez.
Parce que les élections municipales vont être décisives pour le vieux monde, parce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Dominique Reynier, le vieux monde, il est toujours assis territorialement. Hein. La droite a énormément de villes, le PS a encore des grandes villes, hein. Rennes, Nantes, Paris, Lille, etc. Donc, en gros, la liquidation du vieux monde va se jouer dans les prochaines élections intermédiaires aux élections territoriales. Et Macron a beaucoup d'armes pour ces élections parce que, en fait, le supermarché est ouvert. C'est-à-dire qu'il va jouer les maires en place vont chercher à garder leur place et Macron, ils ont besoin de Macron. On le voit bien dans les villes de droite comme Nice où l'électorat a basculé du côté d'En Marche, mais aussi dans les villes de gauche où le Grand Ouest, d'où la place de Le Drian qui est très importante. Il va y avoir besoin. Donc le macronisme, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce de pragmatisme. C'est un parti évidemment qui agrège.
Mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Parce que le pragmatisme ou l'opportunisme, ça n'est pas né en 2017.
Oui, mais on n'a jamais eu un parti qui occupait cette position centrale entre. C'est un giscardisme qui a marché en fait le macronisme. C'est-à-dire que il joue entre centre gauche et centre droit. Il joue des contradictions en fait de ces partis. Et en plus, évidemment, il a un autre face à lui dans le duopole. Il y a un autre parti qui joue de ces contradictions. C'est évidemment le Rassemblement National, parce que le Rassemblement National aussi fracture les vieux partis. Il prend à droite, on l'a vu avec les dernières élections européennes, mais il prend aussi les catégories populaires, parce que le gros problème de la gauche, c'est que les catégories populaires, ce qui devrait être son socle sociologique, aujourd'hui ont déserté durablement la gauche, d'où le problème aussi de Mélenchon, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui a beaucoup de mal finalement à préempter cet électorat de gauche.
Dominique Reynier, d'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Émile Lefebvre? Et puis ensuite, si La République En Marche est ainsi capable de muter, de capter de plus en plus d'identité, donc de d'ériger le pragmatisme comme horizon politique, est-ce que c'est la mort du politique ou est-ce que, au fond, c'est sa forme la plus contemporaine?
Alors, sur le premier point, moi, je suis tout à fait ce que dit, j'approuve, je veux dire ce que dit Rémi Lefebvre sur le macronisme. Moi, je voudrais ajouter que quand on parle de la recomposition française à laquelle nous assistons et qui est très spectaculaire, même si c'est pas le sujet de notre discussion, j'imagine, mais il faut pas oublier de rappeler que c'est en train de se produire à peu près dans tous les pays de l'Europe. Donc c'est un phénomène, et ça c'est important, parce que notre système politique français, il est travaillé par des raisons internes, il est tout autant travaillé par des raisons externes. Et les élections européennes ont été remarquables de ce point de vue-là. Et c'est aussi une des clés de compréhension du macronisme et des Verts. C'est un phénomène d'européanisation par les citoyens de la vie politique. Les Verts et le macronisme sont de bons représentants de cette européanisation. On se place à une échelle transnationale. On sait que la politique, elle est transnationale. Et c'est une transformation culturelle des citoyens européens.
Oui, les européennes vont peut-être devenir l'une des élections cruciales.
On a plus participé à ces élections européennes que législatives de 2017. Oui. C'est la première fois que ça se produit. C'est fascinant, ça n'a pas été commenté. Mais c'est les premières vraies élections européennes. Elles sont absolument remarquables de ce point de vue-là.
Et partout en Europe.
On a un changement culturel, sans doute aussi pour partie générationnelle, parce que ça a été dit pour les nouvelles générations. Le macronisme était en harmonie avec ça, les écolos ont été en harmonie avec ça, et de manière très polarisée évidemment, Marine Le Pen, en face de cela, elle a redit récemment, c'est le grand combat entre les mondialistes dans son vocabulaire et les nationaux.
Mais vous êtes d'accord avec ça, le clivage progressisme contre populisme, est-ce que c'est le nouveau clivage ou est-ce qu'on rate partiellement quelque chose?
Ah, attention, c'est que 50% quand même des électeurs,
c'est ce que j'allais vous dire.
Un peu moins, et j'allais dire, j'écoutais Julien Bayou et Écolo qui disaient, il y a trois blocs aujourd'hui, il y a les conservateurs, il y a l'extrême droite et il y a les écolos. Parce que s'il y a un autre clivage, Dominique Reynier a évoqué tout à l'heure le clivage culturel, mais on voit aussi émerger, se durcir un peu ce clivage écologique. On le voit aussi dans la stratégie de Yannick Jadot. Yannick Jadot qui dit, on lui somme finalement de reconstruire la gauche, et lui dit non, c'est pas ça le problème. Le clivage structurant, c'est écologie versus productivisme. Et donc on voit...
Il a raison, selon vous?
il a raison. Électoralement, on voit effectivement qu'il n'y a pas une déferlante écologiste au niveau européen, mais on voit quand même que ce clivage-là travaille en fait le système politique. On le voit d'ailleurs, je pense que Macron est sensible à ça, puisqu'il envoie beaucoup de signaux à Jadot pour essayer d'enrôler et de construire finalement une nouvelle alliance qui serait centristes libéraux écologistes. Il sait aussi que beaucoup de macronistes de gauche sont partis vers Jadot et qu'il faut qu'il les récupère. Parce que, attention, le macronisme reste fragile, hein, c'est un agrégat fragile d'électorat, et donc il est aussi menacé, et potentiellement la gauche c'est 30%, Macron a besoin de ses 25% pour être réélu, mais il faut qu'il tienne ses 25%.
Croyez-vous à la disparition du clivage droite-gauche, parce que tout le monde dit on a dépassé ce clivage, c'est fini, etc., mais en même temps, je pense qu'on a dû prononcer chacun 50 fois ces deux mots depuis le début de notre entretien, donc a-t-il disparu, et si oui, qui avons-nous perdu, Dominique Reynier?
Alors, les clivages disparaissent pas de toute façon. Hein. Donc, les tensions dans une société comme la nôtre sont très fortes. Elles se politisent évidemment, et donc on a des clivages et on peut les subsumer d'une manière ou d'une autre sous cette catégorie droite-gauche. Mais il y a encore une fois, moi je pense qu'on continue à sous-estimer cette importance-là, nos sociétés démocratiques, et ça leur était jamais arrivé, s'inscrivent désormais dans une échelle transnationale où elles ne font plus la loi. Donc c'est les deux éléments qui déterminent notre nouveau rapport à l'histoire. Et dans ce contexte-là, il y a chez les Européens et les Français aussi, une demande d'efficacité publique, une demande de puissance publique efficace. Je crois que c'est le sens du mouvement qu'arrive à capter positivement le macronisme et les écologistes. C'est ce que n'ont pas su comprendre et à quoi ils n'ont pas su répondre et le Parti Socialiste et les LR pour aller vite. Et c'est la réponse que prétendent avoir les partis populistes type Rassemblement National en France, qui est une réponse qui, à mon avis, est très minoritaire dans les sociétés, mais qui peut potentiellement devenir extrêmement puissante si la première version, j'espère que je suis clair dans mon propos, si la première version, c'est-à-dire déployer une puissance publique transnationale capable de répondre aux attentes des citoyens, si cette version-là échoue. Mmh. On a là une attente, en quelque sorte. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est droite-gauche, ça? Certainement que c'est un clivage, en tout cas, entre liberté et autorité.
Un mot, Rémi Lefebvre, et on ouvre le débat avec les auditeurs.
Je pense que le clivage de droite travaille encore beaucoup le système politique. On le voit bien avec la difficulté qu'a Mélenchon de vouloir en sortir. Mélenchon veut le populisme de gauche, mais sa base électorale est de gauche identitairement. Et là, à trop avoir malmené cette base sociale de gauche, eh bien, il l'a perdue.
Mais
donc,
certains disent le contraire précisément à la France Insoumise. Ils disent c'est parce que, justement, on a choisi une personnalité comme Manon Aubry, qui était plutôt associatif de gauche, plutôt que d'assumer le populisme de gauche et l'affrontement théorisé par Chantal Mouffe qu'on a perdu.
Oui, mais enfin, d'abord, c'est faire, à mon avis, beaucoup trop de cas, à mon avis, de l'importance de la tête de liste. La tête de liste n'a pas été décisive dans ces élections. Et deuxièmement, à mon avis, c'est une mauvaise interprétation de l'électorat 2017 de Mélenchon. L'électorat 2017 Mélenchon était assez classique. C'était l'électorat front de gauche élargi au vote utile socialiste. Et donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, le cœur du Mélenchon, c'est cet électorat de gauche, et le populisme de gauche parfois le amène à perdre cet électorat. Et donc il y a beaucoup de mal chez Mélenchon à sortir finalement du clivage gauche-droite. Il reste quand même malgré tout structurant.
Allez, soyez les bienvenus, auditeurs d'Inter. Bonjour Michel.
Bonjour, merci de prendre ma question.
Vous nous appelez de la belle ville de Tulle.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup de m'entendre. Marine Le Pen et les Gilets jaunes sont-ils en train d'assurer la réélection de Macron en 2022, par exemple en arrivant à mobiliser contre eux tous les modérés?
Merci Michel pour cette question. Rémi Lefebvre.
Oui, je suis pas sûr d'ailleurs d'associer Gilets jaunes et RN, c'est un peu plus compliqué. Moi, ce qui me frappe dans cette dernière séquence électorale, c'est à quel point elle n'a pas été modelée par la crise des Gilets jaunes. C'est-à-dire qu'on est passé et on a eu des mois les Gilets jaunes, et tout d'un coup les Gilets jaunes se sont liquéfiés. Alors, je pense qu'ils pèsent, hein, sur la vie politique, ils vont avoir des effets à long terme, mais finalement cet épisode Gilets jaunes a été déconnecté de la séquence électorale. Comme si finalement il y avait
Ça
la France électorale.
Classique et ancien.
Oui, peut-être, mais il y a la France électorale, puis il y a la France réelle. Alors, une partie de la France réelle. Ah bon, tout à l'heure, on a souligné la participation. Effectivement, elle est élevée, mais attention de ne pas aussi tout construire nos raisonnements politiques à partir d'une participation qui n'était de 50%, hein, malgré tout. C'est-à-dire que les européennes restent une élection de second ordre, et c'est pas les 80% de participation de la séquence présidentielle. Donc, attention de ne pas avoir des interprétations qui sont biaisées par cette un peu distorsion de participation.
Dominique Régnier.
Moi, je crois que, en fait, ce qui prépare possiblement la victoire de Marine Le Pen, si on se place dans cette perspective, c'est l'effondrement des partis d'opposition. C'est leur responsabilité historique. Un parti comme En Marche ne peut que tenter de prospérer, défendre sa ligne, ses positions et tenter de prospérer. Ça s'est plutôt très bien passé pour En Marche. Je crois que maintenant tout le monde l'a compris, malgré les commentaires de la soirée qui étaient un peu ambivalents. Par contre, pour le PS et pour les LR, là la responsabilité est entière. C'est à eux de faire en sorte qu'il y ait d'autres possibilités pour les électeurs. C'est à eux de faire en sorte que...
Mais voyez, ils ont essayé.
Ils n'ont pas parvenu. Ils n'ont rien essayé du tout, en réalité. Rien essayé du tout. Et tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, on cherche à accabler Madame Oubry pour la liste LFI. C'est pareil pour Monsieur Bellamy, du côté des LR. On cherche l'excuse la plus simple, la plus économe. Aucune de ces organisations, en tout cas pour les LR, c'est très clair, n'a vraiment travaillé depuis l'échec historique de 2017, il ne s'est rien passé. C'est une responsabilité énorme. Moi, je trouve frappant ça. Je le dis avec force, parce que si on prend le cas des LR, depuis 2017, être éliminé de leur élection au premier tour et ne se poser ensuite aucune question sur les raisons de cette élimination, imaginez que c'est parce que Fillon a été un mauvais candidat ou parce qu'il a eu des problèmes de costume, c'est vraiment, comme on l'a vu là maintenant, c'est Bellamy qu'on accable, c'est vraiment ne pas se poser des questions fondamentales sur quelle est la nature du discours que l'on veut tenir, que veut-on faire si on veut accéder aux affaires, quel est le rapport que l'on a même au pouvoir en place.
C'est la question qu'a posée Valérie Pécresse au bureau politique il y a 2 jours. Qui sommes-nous ?
Oui, alors ils auraient dû se la poser juste avant, quoi. Et puis ils avaient le temps, parce qu'ils sont dans l'opposition depuis 2012. Donc c'est frappant de voir que dans l'opposition, moi je suis estomaqué par ça, franchement. Depuis 2012, ils n'ont que ça à faire, ils n'y arrivent pas, et là maintenant, ils disparaissent, et c'est eux, réellement, qui créent ce risque. Effectivement, et ce qu'a dit l'auditeur, je termine là-dessus, moi, et je le trouve très parlant de ce point de vue-là, qu'est-ce que va-t-il se passer en l'absence de ces relèves possiblement face à un Macron en difficulté démocratique et modérée, si une masse significative d'électeurs, rejoignant la participation, comme le disait Rémi Lefebvre, on ne restera pas à ce niveau d'abstention, veut exprimer son opposition au président Macron, on court de grands risques de ce point de vue-là, mais c'est à cause des partis de gouvernement qui n'ont pas su être de vrais opposants.
Laurent au standard, depuis Metz, bonjour, bienvenue.
Bonjour Nicolas, bonjour Léa, bonjour messieurs.
Bonjour.
Moi, il y a 25 ans, j'étais enquêteur chez BVA. À l'époque, on ne faisait pas d'enquête politique au téléphone, on faisait en face à face, et on avait une formulation des questions, si je ne me trompe pas, qui tournait plus autour des idées, de certains concepts que des personnes. Donc j'allais dire, pour les élections européennes, pour le succès des Verts, ne mélangeons pas tout. Je pense que les électeurs étaient en phase avec l'actualité. Je pense que la presse a joué un rôle très important. Dans l'actualité, il y avait beaucoup de thématiques qui relevaient des problématiques de l'environnement. Entre autres, cette célèbre mine d'or au Brésil. Donc, je pense que à la fois les gens ont pris conscience de l'environnement parce que l'actualité, depuis plusieurs semaines, on sentait une montée en puissance de cette préoccupation. Donc, les gens, ils sont sensibles aux médias, ils en ont pris conscience, et ils en ont pris conscience aussi d'une chose, c'est que le niveau stratégique aujourd'hui, passe aux grands éléments que sont l'Asie ou les États-Unis, c'est l'Europe. Donc je pense que c'est la concomitance de plusieurs phénomènes.
Oui, donc vote extrêmement rationnel que vous êtes en train de décrire.
Je pense pas du tout que c'est la belle gueule de Yannick Jadot qui a fait 13%. Une préoccupation, c'est le représentant d'une préoccupation qui est montante et qui est constante et qui
bien reçu. Et bien compris. Merci Laurent pour cette question. Rémi Lefebvre.
Oui, notre auditeur, j'ai l'impression, a l'air de dire que l'opinion est en avance sur l'offre politique. Sur l'environnement, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer le score de Jadot? Bon, d'abord, c'est assez classique, hein. Les écolos font toujours des bons scores aux élections européennes. Et en général, c'est un vote refuge pour des centristes, hein. Et là, finalement, la ligne Jadot, qu'il a tenue pendant toute la campagne, c'était de dire, voilà, on va capter les macronistes déçus sur un discours qui était un peu ni gauche ni droite, hein, puisqu'il a toujours récusé l'idée qu'il était à gauche, et aujourd'hui il veut aller au-delà de la gauche. Et effectivement, la préoccupation environnementale qui monte dans la société française, c'est incontestable, alors qu'il ne monte pas dans toute la société française, malgré tout, hein, qui reste quand même très corrélé à un électorat diplômé, urbain, etc., peu populaire. Effectivement, les écolos, beaucoup plus que la France insoumise, alors que la France insoumise avait écologisé son discours depuis longtemps, eh bien, c'est ces écolos qui ont capté finalement ce discours, parce qu'ils avaient aussi, ils ont donné à l'écologie peut-être une dimension macroniste, c'est-à-dire l'idée du pragmatisme, l'idée que finalement le sens de l'histoire, c'est l'environnement, et que ce discours finalement modéré a pu capter en fait ce discours.
Mais est-ce que c'est durable selon vous ?
Alors, je pense que Jadot aujourd'hui est en train de faire un peu la même erreur que Mélenchon a fait en 2017 avec ses 19%, c'est-à-dire qu'il estime qu'il est propriétaire de ses 13%. Alors qu'à mon avis, ce vote, il est aussi très plastique, très volatile. Qu'est-ce qu'il va faire de son vote ? Et aujourd'hui, est-ce que les électeurs de Jadot de 2019 sont les futurs électeurs de Jadot candidat à la présidentielle ? On a aujourd'hui une volatilité des électorats. Mmh. Et donc, les stratégies sont construites sur des électorats qui sont volatiles. D'où cette espèce, parfois, d'instabilité, là, on a l'impression que d'un système politique un peu éthéré, en fait.
Mmh. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au fond, l'écologie est la nouvelle grande idéologie et la nouvelle seule idéologie que l'Occident a proposée?
Dominique Régnier. Idéologie ou préoccupation?
Imaginaire peut-être.
Oui, enfin, tout ça pourrait être d'ailleurs convoqué, hein, pour rendre compte de l'écologisme. C'est en même temps une sorte de chant du cygne de l'ambition occidentale et européenne à réguler le monde, hein, parce que...
Mais justement, c'est ça ma question en filigrane, c'est est-ce qu'au fond, voilà, l'Occident étant en recul, il s'accroche à l'écologie comme dernière idéologie?
Oui.
Universaliste, voilà, d'une certaine,
voilà,
manière.
Oui, c'est possiblement ceci. Et c'est ça aussi qui fait que les écologistes, et nous sommes tous des écolos, mais sont quand même confrontés à ces difficultés-là. Parce que si on prend ce qui carbone le monde, c'est le reste, hein, c'est l'Asie, c'est l'Afrique, c'est les États-Unis. Nous, on n'y est pas pour grand chose parce qu'on a fait beaucoup d'efforts. Et donc, on aimerait que cette règle soit universalisée, mais on n'a pas les moyens de le faire. Ensuite, je voudrais juste ajouter ce point qui est que l'écologisme, à un certain degré et sous certaines conditions, c'est une rupture avec les classes populaires. Et c'est un vrai sujet parce qu'on ne peut pas envoyer toutes les classes populaires vers les populistes. Les classes populaires, elles ont besoin de progrès matériel, elles ont besoin de croissance, elles ont besoin d'emploi. Et d'une certaine manière, l'écologisme peut être une forme de détestation de toutes ces réalités, parce que c'est quand même, Rémi Lefebvre disait à l'instant, c'est quand même, je dirais, la pensée ultime, au fond, de catégories qui ont, en fait, qui ont tout eu, en réalité. Mmh. Et je crains beaucoup, moi, cette rupture qui pourrait être fatale pour les démocraties.
Il y a un vote de classe, donc.
Oui, l'écologisme version Jadot peut être macro-compatible. Je veux dire, ça, c'est effectivement. Alors, il y a un discours, quand même, dans l'écologie aujourd'hui, c'est de dire productivisme libéral, productivisme marxiste, on les met à distance et on essaie de construire une voie médiane. Le problème, aujourd'hui, c'est quelle est la base sociale, évidemment, de ce discours écologique. Et je pense que pour la gauche, le salut de la gauche vient dans une synthèse entre la sociale écologie, mais qui est difficile à construire. C'est-à-dire comment à la fois retrouver les milieux populaires et en même temps, effectivement, fortement structurer l'offre politique autour de l'écologie, qui est l'idéologie, sans doute, d'avenir.
Merci à tous les deux. Dominique Régnier, directeur général du think tank Fondapol, professeur des universités à Sciences Po. On mettra les liens vers la grande enquête que vous venez de publier, Enquête mondiale.
Démocratie, hein, sous tension.
Voilà.
Merci.
Et merci Rémi Lefebvre, vous co-dirigez l'ouvrage L'entreprise Macron, et on mettra également les liens sur notre site internet. Il est 8h45, 9h moins le quart, le carrefour du 7-9 à suivre.